Merci Tiffen, bon week-end. Écrire avec et pour Hölderlin, réciter des vers en dormant sur un cheval, c'est ce que font nos deux invités du jour, Benoît Chantre et John Jackson.
La Compagnie des Poètes, par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h. Hölderlin, le poète, philosophe allemand, eut une vie comme césurée, tranchée, scindée en deux parts égales. Une première longue de 36 ans, celle qui le vit écrire son Hyperion, son Empédocle, ses hymnes, ses odes, ses élégies. Celle de l'amitié avec Hegel et Schelling, celle qui le vit aimer sa Diotima. Et une seconde longue de 36 ans, elle aussi, a écouté les heures au clocher de Tübingen en poète clochard frappé, dit-on, de folie. C'est à ce retournement, ce coup de foudre, cette césure que vous vous attaquez, Benoît Chantre, dans un récit-essai pour le moins européen, paru chez Grasset. Ça s'appelle « Le clocher de Tübingen » et troquerait, je raccourcis évidemment, folie contre révélation mystique. Et de révélation, il est question aussi avec vous, John Jackson, poète, longuement professeur à l'université de Berne, auteur d'une vingtaine d'ouvrages critiques portant sur la poésie, je pense en particulier à celle de Bonnefoy et de Célan. Et la révélation pour vous, eh bien, elle commence par là.
Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville, aux uns portant la paix, aux autres le souci. Pendant que des mortels, la multitude vile, sous le fouet du plaisir, ce bourreau sans merci, va cueillir des remords dans la fête servile. Ma douleur, donne-moi la main, viens par ici. Loin d'eux, vois se pencher les défuntes années, sur les balcons du ciel en robe surannée. Surgir du fond des eaux, le regret souriant. Le soleil moribond s'endormir sous une arche, et comme un long linceul traînant à l'orient, entends, ma chère, entends la douce nuit qui marche.
Et pendant ce temps, John Jackson chuchote. En même temps, il chuchote, il se récite à lui-même. On va y venir justement à cette question de la récitation. Alors ça commence majuscule avec la voix de Daniel Mesguich, qu'on vient d'entendre, disant « Recueillement » de Baudelaire, extrait des Fleurs du Mal. C'est le poème par lequel John Jackson vous ouvrez votre essai « En dormant sur un cheval », qui paraît aux éditions Les Belles Lettres. Un essai comme autobiographie d'ailleurs, plutôt qu'autoportrait, comme autobiographie en lecteur, ou en déchiffreur même de poésie. Et ce poème-là, c'est un poème qui vous frappe littéralement à l'adolescence. Quel adolescent, peut-être pour commencer, étiez-vous pour que Baudelaire vous comprenne si bien ?
Quel adolescent j'étais, je ne sais pas. J'étais en tout cas un adolescent triste, largement à la dérive et sans point d'orientation. Et ce que la lecture de ce poème, ce que j'ai fait en classe, comme tous mes condisciples à l'époque, ce que cette lecture m'a soudainement révélé, c'était au moins deux choses. D'abord, ce poème m'a révélé une profondeur intérieure. Et d'autre part, justement, le pouvoir du langage, cette coïncidence d'une intériorité soudainement offerte dans ce qu'elle a de mystérieux, dans ce qu'elle a de sombre aussi, d'une part, et d'autre part, ce pouvoir évocateur des mots, ce pouvoir presque magique, cette musique qu'on entend dans ce sonnet, eh bien, tout cela a représenté pour l'adolescent que j'étais une véritable révélation, et à partir de laquelle et la poésie et plus tard la littérature ont pu entrer et gagner une place décisive de mon existence.
Vous dites même, vous dites à sa lecture, rien n'avait changé, tout avait changé, et que au fond c'est ce poème-là qui aura décidé de ce que la poésie serait votre horizon. Ce que la poésie va devenir par ailleurs, et puis que sa lecture serait nécessitée d'une certaine manière. Alors, même s'il s'agit d'une construction a posteriori, j'imagine, ce discours, Benoît Chantre, est-ce que vous comprenez ce type de, disons, de, alors j'allais dire épiphanie, mais ce type de révélation-là, qui, j'imagine, est un genre de révélation qu'on a à l'adolescence, quand on pense encore que les poèmes sont des absolus?
Je le comprends tout à fait, et avec autant d'émotion que ce poème a presque joué le même rôle pour moi, et je l'ai effectivement découvert adolescent, et il n'a cessé de m'habiter. Et j'aime énormément le commentaire qu'en donne John Jackson, ou plutôt l'évocation qu'il en fait. Il y a quelque chose à la fois intérieur, évocatoire, puissant, mais il y a comme une opacité de la langue poétique, comme un mystère qui lui est propre et qui fait que brusquement tout se suspend lorsqu'on souffre, lorsqu'on est adolescent, lorsqu'on est mal dans sa peau, comme ils disent, ou mal dans son monde, pas forcément à l'aise dans l'ordre des significations établies. Brusquement, une voix nous est donnée où nous sommes chez nous. Quelque chose se suspend dans l'ordre des significations et qui nous donne accès à un mystère qui n'a pas forcément à être nommé, mais où nous nous réfugions.
Alors ce poème-là, hein, c'est de là aussi, probablement que par l'idée que vous allez tirer un peu pendant tout cet essai de John Jackson, que le langage peut donner un sentiment de réalité plus fort que la réalité elle-même. Hein. C'est en tout cas de là que ça part. C'est ce qui se joue dans ces 22 chapitres. Hein. Vous y lisez Baudelaire, Mallarmé, T.S. Eliot, Celan, Bonnefoy, Shakespeare, beaucoup, Traquel, Du Bellay, Guillaume d'Aquitaine. Donc 22 chapitres pour clarifier ce qui insiste tellement en vous, hein, ce sont vos mots, ces vers que vous nouez d'emblée à la mémoire. Est-ce que ça voudrait dire que pour vous, en tout cas, la poésie est d'abord mémoire? Il faudrait peut-être même dire le poème est d'abord mémoire.
Il l'est d'autant plus que je n'ai jamais imaginé qu'on pût parler de poésie avant d'avoir appris le poème par cœur. Pour moi, un poème est un texte qui m'habite ou qui habite dans ma mémoire. À son tour, le poème lui-même est mémoire. Alors, toute la question est de savoir de quoi il est mémoire. Mémoire d'une expérience, mémoire d'une intuition, mémoire de quelque chose de plus obscur, souvent d'ailleurs qu'on ne Benoît Chantre vient d'évoquer le côté sombre ou obscur qu'il y a dans le recueillement de Baudelaire, mais on peut généraliser. La poésie est là pour aborder cet espace inexploré qui insiste en nous à travers toute notre vie. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, ce que j'aimerais dire, c'est que mémoire du poème, pour moi, ça veut dire aussi que le poème doit être dit à haute voix. La poésie est faite pour être lue à haute voix, pour être dite, pour être affirmée, non pas seulement dans une lecture muette, comme nous le faisons, mais comme une espèce, et le mot de récitation n'est pas non plus tout à fait pertinent, parce que il s'agit, en la proférant, il s'agit de redonner à son élan toute sa primauté, toute sa fraîcheur. Et donc, il importe pour moi non seulement de savoir les poèmes par cœur, avant d'en parler, mais de les dire.
Les vers, dites-vous, me viennent comme en dormant sur un cheval. Hein, donc, vous empruntez à Guillaume d'Aquitaine, hein, Guillaume IX d'Aquitaine, le poète du XIe siècle, comme si vous étiez parlé par votre mémoire. C'est-à-dire que vous racontez comment, de façon quasi quotidienne, hein, je ne sais pas si c'est le cas, mais quotidienne, ouais. Les vers vous viennent un peu n'importe où, un peu n'importe comment. Donc, comme en dormant sur un cheval, hein, qu'est-ce qu'un tel titre, au fond un tel vers, dirait de votre propre rapport à la poésie?
Bien, j'espère qu'il dit que à quel point je suis habité par cette tradition poétique, que j'ai mis ma vie à essayer d'apprendre et à mémoriser, et à quel point aussi je suis dans un rapport qui est le contraire d'un rapport de maîtrise. à la parole poétique. C'est la parole poétique qui me maîtrise, ce n'est pas moi qui maîtrise la parole poétique.
Qu'est-ce qui, au fond, imprime ? Est-ce que ça veut dire que c'est une musique ? Est-ce que ça veut dire que c'est un sens en attente de déchiffrement ? Parce que vous parlez de ce moment-là, justement, de ce rapport particulier à la poésie, qui, où finalement peut-être que la joie à lire ou à expérimenter ou à dire le poème tiendrait aussi à ça, c'est-à-dire à l'idée d'un déchiffrement en attente, ou
en tout cas
d'une promesse de déchiffrement.
Tout à fait. Aujourd'hui encore, je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi le regret surgit souriant des eaux de recueillement. Et ça, c'est un poème que j'ai lu quand j'avais 14 ans. Tout le mystère de la poésie, me semble-t-il, est là. Comment se fait-il que des mots qui sont groupés d'une manière qui se refuse à une saisie sémantique ou une saisie herméneutique immédiate, comment se fait-il que ces mots s'offrent à vous d'une manière qui vous donne l'intuition et qu'ils contiennent une promesse, disons, que d'autre part, cette promesse, elle est différée, parce que vous n'allez pas accéder immédiatement à ce sens qu'il semble, que ces mots semblent promettre. Mais ça, me semble-t-il, c'est ce qu'est la poésie. Je me rappelle que Paul Celan, à qui on demandait souvent « Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour comprendre vos poèmes ? Vos poèmes sont si difficiles, que faire pour les comprendre ?» Et il répondait « Lesen Sie immerzu, lisez, sans arrêt, relisez-les. C'est à force de les relire que le sens se donnera. » Eh bien, il avait bien compris, d'une certaine façon, à quel point cette promesse était une promesse en attente. Voilà.
Vous racontez, alors, vous êtes né au Caire, grandi un peu en Inde, puis à Lausanne, entre français, anglais, la langue de votre père, la langue de votre nom d'ailleurs, et puis des bouts d'italien par votre mère, des bouts d'arabe par votre grand-mère, donc une sorte de mélange de langues dans lequel vous avez grandi. Est-ce que on peut faire un lien entre cet état de fait, cet environnement dans lequel vous avez grandi, et au fond ce rapport à ce mystère de la langue poétique?
Sans doute, mais moi je ne suis pas capable de le faire, ce rapport. Pour moi, les langues sont simplement un donné. Un donné que j'ai parfois acquis. L'allemand, je l'ai appris comme tous les petits écoliers de Suisse romande.
Difficilement, dites-vous.
Difficilement, d'ailleurs, parce que l'allemand est une langue difficile et il faut beaucoup d'années avant qu'on arrive à véritablement connaître l'allemand, et plus encore quand on s'occupe de poètes allemands, que ce soit Celan ou que ce soit Hölderlin. Bon, j'ai eu la chance que celui qui m'a véritablement formé, mon maître, si je puis dire, s'appelait Bernard Böschenstein. Il se trouve qu'il était un des deux ou trois plus grands interprètes de Hölderlin. Et il m'a obligé à ce travail. Donc, quand je dis le polyglottisme est un donné, oui, mais c'est un donné qui a été parfois acquis avec difficulté. Je n'étais pas un très bon élève.
Alors, à propos de langue et de poésie allemande, et puis il va en être question pas plus tard que tout à l'heure avec vous, hein, Benoît Chantre, on écoute.
Ich träumte von bunten Blumen, so wie sie wohl blühen im Mai. Ich träumte von grünen Wiesen, von lustigem Vogelgeschrei, von lustigem Vogelgeschrei. Und dass die Hähne krähten, da ward mein Auge wach, da war es kalt und finster, da schrien die Raben am Dach. Da war es kalt und finster, da schrien die Raben am Dach. Doch an den Fenstern schreibt
Frühlingstraum, Schubert, un lied extrait de Winterreise au piano de Benjamin Britten et au chant Peter Pears. En est en 63 que vous citez John Jackson discrètement, ce lied de Schubert, pour évoquer justement votre rapport à la langue allemande.
Oui, c'est un des grands mystères. J'ai jamais réussi à comprendre pourquoi j'avais un rapport amoureux à la langue allemande.
À la voix féminine en allemand.
La voix féminine, ou en l'occurrence masculine, puisque c'est celle de Peter Pears. Oui. Je ne sais pas. Il se trouve simplement que j'ai eu très tôt, et bien avant d'être entré dans l'apprentissage sérieux de l'allemand, un rapport affectif à cette langue, qui avait pour moi peut-être la particularité de n'être ni la langue de ma mère, qui était le français, ni la langue de mon père, qui était l'anglais, mais qui était une langue donc qui était peut-être un peu plus à moi, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que une voix allemande me touche d'une façon différente de toutes les autres langues.
Benoît Chandre.
Oui, vous évoquez d'ailleurs dans ce très très beau chapitre de votre livre que vous intitulez « La voix », un souvenir d'enfance où dans le mauvais anglais américanisé d'un collège jésuite à Darjeeling, vous êtes soigné par une infirmière dont vous vous demandez si elle ne parlait pas précisément cette voix allemande.
Oui, enfin c'est une énigme. Mais alors, je citais ces vers de Wilhelm Müller que Schubert met en musique, parce que dans les vers que je cite et qu'on a entendu tout à l'heure, il est question de la promesse von Wonne und Seligkeit. Hein. Et Wonne und Seligkeit, c'est le bonheur et la
félicité,
l'extase. Et c'est bien un peu cela qui est en jeu dans ce mystère de l'allemand. C'est que j'ai eu une intuition qui fait que j'attribue à la langue allemande un pouvoir qui est un pouvoir mystérieux et qui est un pouvoir émerveillant.
On l'écoute.
Niemand knetet uns wieder aus Erde und Lehm. Niemand bespricht unseren Staub. Niemand. Gelobt seist du niemand. Dir zulieb wollen wir blühen. Dir entgegen. Ein Nichts waren wir, sind wir, werden wir bleiben, blühend, die Nichts, die Niemands Rose. Mit dem Griffel seelenhell, dem Staubfaden himmelswüst, der Krone rot vom Purpurwort, das wir sangen. Über, oh über dem Dorn.
Personne ne nous pétrira plus de terre et d'argile, personne ne conjurera notre poussière, personne. Loué sois-tu, personne, par amour de toi, nous voulons fleurir, vers, toi, un rien. Étions-nous, sommes-nous, resterons-nous en fleurs, la rose de rien, rose de personne, avec le style clair d'âme, l'étamine ciel désert, ma corolle rouge, du mot pourpre que nous avons chanté, par-dessus, oui, par-dessus, l'épine. Ce qu'on entendait, c'était la voix de Paul Celan. Alors peut-être un mot justement, puisqu'on parlait de voix, sur ce qu'on entend de ce qu'il écrit dans sa voix particulière.
Alors,
de Celan.
En l'occurrence, le
poème s'appelle Psalme.
Psaume. Il m'est difficile de préciser ce qu'on entend dans cette lecture-là en particulier, parce que j'ai le souvenir très vif de plusieurs lectures. J'ai eu le privilège d'entendre Celan lire 4 fois, je crois. Les 2 premières fois, c'était à Berlin en décembre 67. Ensuite, c'était à Genève en février 68. Et la dernière fois, c'était à Stuttgart, un mois avant sa mort, lors du bicentenaire de la naissance de Hölderlin. En fait, ce qui m'a saisi dès la première seconde où je l'ai entendu à la Haus der Kunst à Berlin, c'était cette gravité et en même temps cette retenue, cette profondeur de souffrance qu'il y avait, qui est peut-être pas tellement sensible dans l'enregistrement qu'on vient d'entendre, mais qui m'a frappé dans tout au long de ces lectures. Une souffrance, d'ailleurs, savait s'apaiser, mais qui s'accusait parfois, au contraire, d'une manière très dure, dure à la fois pour lui-même et dure pour l'auditoire. Je me souviens qu'à Stuttgart, il avait eu le sentiment que dans la salle, il y avait là l'écoutant des anciens nazis. Et la lecture qu'il avait faite de ses poèmes était au contraire, alors est devenue, par réaction à ce sentiment d'épouvantement qui était le sien, une lecture d'une dureté, d'une cruauté absolument terrible, et qui fait que le public est resté saisi, même sans rien comprendre à ce qu'il lisait, mais par l'intensité de l'agressivité qu'il y avait dans cette voix. Mais c'était une agressivité qui était tournée contre soi aussi bien que contre le public. C'était quelque chose de terrible. Mais bon, entendre Paul Celan lire ses poèmes, c'était entendre la voix d'une douleur dont je n'ai jamais entendu l'appareil du reste de ma vie.
Alors, puisque, comme vous le dites, la poésie n'est jamais seulement poésie, en quoi est-ce que un poète comme lui, alors qui a occupé beaucoup de vos essais, en quoi un tel poète a-t-il pu façonner votre façon de voir ou votre façon de réfléchir, comme vous le dites?
Pour apprendre à lire Celan, il faut beaucoup d'années et il faut s'efforcer d'entrer dans sa conception. Il faut d'abord la comprendre, il faut ensuite essayer de la faire sienne. Et donc, on est obligé à un acte d'identification qui est extrêmement long, difficile et, je dois le dire, douloureux. Et donc, forcément, on adopte la poésie un point de vue, on adopte en partie, en tout cas, sur la poésie, un point de vue qui est le sien. Quel était son point de vue? Eh bien, c'était que le langage était un absolu et que cet absolu était décisif pour à la fois l'histoire et pour l'existence individuelle. Et donc, il a fallu que je fasse l'apprentissage de ce point de vue, quitte ensuite à m'en détacher, parce que l'univers de Celanien est un univers qui est tellement marqué par la Shoah, qui est tellement emprisonné par cette expérience de la catastrophe, qu'on ne peut pas y vivre. Et la preuve, c'est que lui-même n'a pas pu y vivre, puisqu'il a décidé de mettre fin à ses jours lui-même. Et donc, il a bien fallu que je me détache de cette conception, si tant est que j'ai été tenté de la faire mienne. Au-delà du cap personnel, la poésie ne peut pas ne pas souhaiter sortir de l'emprise de la mort, parce que la poésie n'a pas la mort pour horizon, sinon à des moments précis, la poésie a la vie pour horizon.
Alors, oui, Benoît Chantre, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, je suis très, très ému par ce qui vient d'être dit, parce que l'expérience de Paul Celan est effectivement à la limite du supportable. Ce très grand poète écorché par sa propre langue, puisque John Jackson le rappelle très justement, elle était la langue de l'émancipation et elle devient la langue de la destruction. Elle était un modèle, elle devient un obstacle. Ce poète qui doit se battre contre sa propre langue et sa propre langue maternelle, c'est un drame à la limite du soutenable, qu'il a soutenu le temps qu'il a pu.
Juste un tout petit pas de côté, John Jackson, pour en terminer, si chaque chapitre, sauf un en particulier consacré à la brique rouge anglaise, est tressé à partir d'un ou plusieurs poèmes, voire un vers, parfois c'est juste un vers, un petit vers de Robert Dee glissé notamment, à la fin, l'un d'eux fait mine de dire un poème, ou en tout cas occupe sa place comme tel sur la page, mais voilà ce qu'on entend.
When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid. afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver song of the love. Walk on.
Jerry and the Peacemakers, You'll Never Walk Alone, chanson à l'origine extraite de Carousel, hein, une fameuse comédie musicale de 1945, et que les amateurs de foot ne peuvent entendre sans penser à FC Liverpool, dont elle est devenue l'hymne, hein, par lequel les supporters s'époumonnent et communient avant et après chaque match d'ailleurs. Et c'est précisément de foot qu'il est question dans ce chapitre, John Jackson, de ce foot que vous avez pratiqué longtemps, à un poste très particulier. Enfin, même si vous avez commencé par être demi-défensif, vous êtes finalement devenu gardien. Qu'est-ce que le choix de ce poste-là dirait de vous ?
Oh, rien, sinon que je n'étais peut-être pas un très bon demi-défensif et que j'essayais d'être un peu un meilleur gardien. Mais ce qu'il faut dire à propos du football, c'est qu'il m'a sauvé la vie. Dans les années qui ont précédé ma découverte de la littérature, le football, ça a été ma famille, le football, ça a été ma patrie, si je puis dire. C'était véritablement la forme heureuse et positive de mon rapport aux autres. Et la communauté que peut former une équipe de juniors a été pour moi véritablement infiniment bénéfique. Et donc j'ai gardé aujourd'hui encore très aussi vive l'affection que j'ai pour ce sport. Et même si je ne suis pas un supporter de Liverpool, moi je suis plutôt pour Man United, eh bien je ne peux pas entendre un hymne comme celui-là sans en être ému. Voilà.
Vous faites même, vous risquez à quelques liens entre le poème et une partie de foot. Et puis après tout, hein, le poème comme foot, c'est toujours aussi une façon de se dire qu'on n'est pas seul. On en revient à Baudelaire et à la chanson qu'on vient d'entendre. Alors parfois, c'est Hölderlin qui fait écrire. Hölderlin qui dit-on, donc reclus chez l'ébéniste Zimmer, qui abrita les quelques 30 et quelques dernières années de sa vie à Tübingen, aurait peut-être, lui, fredonné ça. Più non me sento, extrait de La Molinara, l'opéra de Paisiello, interprété ici par Cecilia Bartoli. Alors on dit que Hölderlin aurait pu fredonner un petit peu donc, dans ses fameuses dernières années de silence calculé, qu'il fredonnait des airs. Il aurait pu probablement fredonner celui-là, hein, puisqu'ils étaient tout à fait contemporains. C'est aussi un air que vous citez en rapport avec Suzette, hein, Gontard, sa maîtresse, qui chantait peut-être aussi cela chez elle. C'est la raison pour laquelle vous avez voulu nous faire entendre cet air-là.
Oui, c'est une merveille absolue, admirablement interprété, et la légende est tenace. Il y a tellement de légendes autour de la vie de Hölderlin, surtout autour de la légende de la folie. Cette légende veut qu'il ait constamment murmuré, chanté cet air très célèbre à l'époque, qui faisait fureur à Vienne et qui est arrivé évidemment dans sa soie, se chanter à Francfort. Et Suzette Gontard, la femme de sa vie, l'unique amour de sa vie, était une très bonne soprano, donc il est très probable qu'il l'a entendu chanter ça et qu'effectivement il l'a joué. Alors était-ce une épinette, était-ce un clavecin, était-ce un piano désaccordé, toutes les légendes s'empilent, se sédimentent. Il est fort probable que la petite Lotte Zimmer, la fille qui naquit pendant le long séjour de Hölderlin chez le menuisier, avait dans sa chambre un piano, qui lui a appris le piano et qu'il jouait sur son piano. Et après, on a voulu que ce fût un clavecin et qu'il ait été dans sa tour. Donc il a dû effectivement apprendre cet air à la petite Lotte Zimmer.
Chacun sa scène inaugurale, hein, pour John Jackson, c'était donc Baudelaire tout à l'heure. Pour vous, dans votre Clocher de Tübingen, qui paraît aux éditions Grasset, Benoît Chantre, c'est un écran de télévision. Vous avez 14 ans, 77. Et au journal télévisé, on annonce la découverte du corps du patron des patrons allemands dans un coffre de voiture à Mulhouse, assassiné par les fractions armées rouges. Commencez par là. Alors, au-delà de la coïncidence géographique, hein, parce que vous vous rappelez donc que la voiture était immatriculée Homburg, qui est un lieu hölderlinien s'il en est, c'était commencer par quoi, Benoît Chantre, que de commencer par là?
Oui, c'est un peu étrange, en fait, je n'ai pas très bien compris pourquoi j'avais voulu commencer par là. C'est qu'après avoir, en relisant mes épreuves, que j'ai intériorisé tout cela. L'effet du montage, vous ne le maîtrisez pas toujours. Et je crois que ça correspond précisément au moment où j'ai cessé de, ou commencé à cesser de parler allemand. J'appartiens à une génération qui est celle de De Gaulle et d'Adenauer. Enfin, je suis né en 63. Je parlais allemand couramment dans une petite ville de province jumelée avec une ville de Bavière. La réconciliation franco-allemande était un impératif absolu. Et nous parlions tous allemand. Enfin, je parlais allemand. Et mes 14 ans et ce choc qu'a été le retour incroyable de la violence qui est celle de la violence terroriste et contre-terroriste qui a lieu à ce moment-là dans l'Allemagne des années 70, dans cet automne allemand, Deutschland im Herbst, ce choc correspond mais exactement au moment où l'adolescent que j'étais, de 14 ans, découvrait l'ampleur de la Shoah. Et cette langue qui m'était presque naturelle m'est devenue étrangère.
Quel discours, justement, un tel essai, une telle presque contre-lecture, hein, on va y revenir, de Hölderlin, vous permet finalement justement de tenir sur l'Europe, hein, parce que là on parle de ce premier chapitre un peu inaugural, au fond c'est aussi ça qu'il s'agit de faire.
Cette déflagration de violence de l'automne allemand, dans ce souvenir très précis que j'ai effectivement de nouvelles télévisées, a des répercussions dans le sud-ouest de la France. Étrange méridien qui part de Francfort et qui arrive à Toulouse ou Bordeaux, puisque des attentats ont lieu là-bas, etc. Et que cette violence qui avait été maintenue fort close dans l'après-guerre revient avec une force inouïe. Alors c'est bien sûr l'axe franco-allemand qui est ici directement impacté, comme on dit aujourd'hui, la découverte a posteriori que tout ceci part de Hombourg, qui est le lieu où s'était réfugié Hölderlin et où il écrivit ses plus beaux poèmes, et troublant, m'a beaucoup troublé et m'a invité à revisiter cet espoir incroyable à la fin du XVIIIe siècle et au du début du XIXe, porté par des intellectuels qui n'en pouvaient plus d'une théologie surannée, qui s'appelait Hölderlin, qui s'appelait Schelling, qui s'appelait Hegel. Cet espoir fou qui fut le leur à l'époque, de créer l'équivalent de ce que fut pour Rousseau la République helvétique ou de ce que fut la République batave au temps de la Révolution française, c'est-à-dire tout simplement une République souabe dans cette petite province limitrophe de la France où l'on parle aussi bien l'allemand que le français, un cœur de l'Europe en quelque sorte, dans ce couloir lotharingien qui se remettrait à battre. Et cet espoir insurrectionnel, mais au sens non violent du terme, il s'agissait d'enfin faire revenir une Grèce encore idéale dans la concrétude d'une histoire donnée, celle du millénaire orage, Das tausendjährige Wetter, dont parle souvent Hölderlin, fait revenir au cœur de cette histoire européenne une république paisible.
Alors ça, c'était avant, avant le coup de foudre, avant son voyage en France, Benoît Chantre. Je parlais de scène inaugurale tout à l'heure, alors il y en a peut-être une autre qui vient Très vite, page 21 pour être précise, vous écrivez « L'homme qui traverse la place a des cheveux longs, plaqués sur le crâne, des pattes touffues cachant ses oreilles, une barbe de 3 mois, des ongles sales, sa redingote est déchirée à l'un des coudes, il cligne des yeux dans la lumière et trébuche sur les pavés. Un autre personnage, plus trapu, le soutient et l'aide à marcher. Les deux hommes s'arrêtent, puis repartent, formant une étrange bête à 4 pattes qui tente d'éviter les passants affairés. Tous deux parviennent jusqu'au muret du vieux rempart et regardent couler le Neckar en contrebas. Les cloches de l'église sonnent. Sursautant, l'homme qui titubait se retourne et regarde le bleu du ciel, tamisé par ce qu'il faut de nuages, puis les éclats du soleil sur le toit de métal de la tour. Les hirondelles, affolées par les coups de l'heure, ont quitté ce refuge et piaillent dans les platanes chauffées par le soleil. S'il s'était tourné sur la gauche, l'invalide aurait pu voir, au bout d'une ruelle où courent 2 étudiants en retard, leurs livres sous le bras, la façade du séminaire, grosse bâtisse au toit rouge fleuri de mansarde. Mais il ne regarde pas de ce côté, il se tourne dans l'autre sens et reprend le bras du colosse, le maître ébéniste Ernst Zimmer, bien connu des gens de la clinique, puisque c'est lui qui a restauré les cellules de cette ancienne Académie des Arts. Le menuisier ouvre la grille et l'invite à descendre dans le jardin. Donc ça, c'est vraiment au tout début de votre ouvrage, Benoît Chandre. Qu'est-ce qui se joue là, dans cette scène de sauvetage, dans ce regard de Hölderlin, dans le son des cloches?
Vous avez un maître ébéniste, charpentier de son état, qui vient, après avoir sans doute restauré et installé les cellules de cette nouvelle clinique à Tübingen, qui était l'ancienne Académie des Arts. Vous avez ce maître ébéniste qui s'interroge sur ce corps qui est là, comme un clochard affalé par terre, dans un très mauvais état. Qui est cet homme? Et on se renseigne, il s'appelle Friedrich Hölderlin. Et vous avez ce maître ébéniste qui dit l'auteur d'Hyperion. Car il savait par un maître relieur, il y a beaucoup d'artisans dans l'Allemagne de l'époque, une vraie culture chez ces gens-là, par un maître relieur qui avait relié les deux volumes d'Hyperion, il connaît ce texte, ce roman lyrique magnifique qui est déjà assez connu à l'époque. Et donc c'est le même, cet homme qui est à terre, c'est l'auteur d'Hyperion. « Je le prends chez moi », dit Hans Zimmer. C'est une scène totalement saisissante. Hölderlin a toujours vécu protégé par des artisans. Un artisan vitrier, un artisan horloger, maintenant c'est un artisan menuisier, qui le prend chez lui. Et il faut être sur cette place de Tübingen pour tout comprendre. Tout se concentre là, effectivement, c'est assez dans ce centre terrible, qui est la petite place face à l'Académie des Arts, avec le Neckar derrière vous. Vous vous tournez sur votre gauche et vous avez une ruelle qui monte au Stift de Tübingen, que vous voyez, et vous vous tournez sur
là
la droite.
Là où était Hölderlin.
Là où était Hölderlin, Schelling et Hegel. Et vous vous tournez vers la droite et vous voyez la maison du menuisier bâtie sur le vieux rempart de Tübingen. Donc, quand il sort évidemment avec Zimmer, et il est sur cette place. Il y a à gauche le passé de ces discussions, de cette révolution espérée, de cet arbre de la liberté planté ensemble, une nuit de 93 par Schelling, Hegel et Hölderlin, ce que Hölderlin ne veut plus voir. Il y a en face ce qu'il ne veut surtout pas voir non plus, qui est la torture qu'il a endurée pendant 9 mois, et puis il y a enfin à droite la maison du menuisier. Et ça, c'est tout à fait saisissant, puisque de la naissance de Hölderlin en 70 à son internement forcé, puisque sa mère le fait exfiltrer à Hambourg où il écrit ses poèmes et le fait ramener de force à la première clinique psychiatrique d'Allemagne, de sa naissance à cet internement, 36 années se sont écoulées, et de sa sortie de cet épouvantable internement où il fut littéralement torturé comme un cobaye, le premier artiste dégénéré en quelque sorte de l'Allemagne moderne, de la sortie de cet internement à sa mort, 36 années se sont écoulées. Donc vous avez cet immense poète qui, repassant le Rhin en catastrophe parce que la seule femme qu'il ait aimée va mourir, Suzette Gontard en 1802, écrit ce poème magnifique « Hälfte des Lebens », moitié de la vie, qui est en train, au mi-temps de sa propre vie, de constituer sa vie comme un poème séparé en 2 hémistiches.
Vous écoutez France Culture, la compagnie des poètes, par Manu Farid.
Qu'est-ce Qu'est-ce qu'on sait d'ailleurs, Benoît Chantre, exactement de ce bouleversement, de ce qu'il a frappé, donc lui qui revient, vous dites, hein, qui repasse le pont de Quai, lui qui en revient de France à pied, en clochard, presque privé de parole, lui qui dit avoir été frappé par Apollon.
Ah, Apollon mich geschlagen hat. Apollon m'a frappé, c'est ce qu'il dit à son ami Casimir von Böllendorf. Correspondance tout à fait bouleversante, nous n'avons que deux lettres.
Que vous citez d'ailleurs.
Böllendorf est un ami intime de Hölderlin, qui est dramaturge, qui va se suicider quelques années plus tard au bord de la mer Baltique. Et il est évident que Hölderlin connaît cette tentation du suicide chez son ami Böllendorf, c'est tout à fait probable. Et au moment de quitter une Allemagne qui, dit-il, ne veut plus de lui, c'est à lui qu'il s'adresse pour juger l'une de ses pièces qu'il lui a envoyées avec un tact infini. Et il donne dans cette première lettre, avant son départ pour la France, toutes les clés de son œuvre. Elle est fondamentale pour comprendre toute la poétique hölderlinienne. Et à son retour de cette expérience française, qui fut brève, puisqu'il arrive en janvier 1802 et qu'il repart en catastrophe en mai 1802 de Bordeaux. Donc, à l'automne 1802, il envoie une deuxième lettre à son ami Böllendorf et il écrit cette chose mystérieuse, Apollon m'a frappé. Et on veut absolument y voir le premier signe d'une schizophrénie catatonique ou d'une folie ou que sais-je. Il a été frappé par le Dieu. Il a été bouleversé, retourné par le Dieu. C'est un énorme mystère sur lequel il ne faut pas apposer de phrases et de raisonnements définitifs, mais c'est de ce retournement dont il fait à son ami la confidence.
Alors, ce retournement, c'est justement l'objet aussi de cet essai, hein, c'est-à-dire que vous allez reprendre pas à pas, depuis Hyperion, l'œuvre de Hölderlin, justement, pour en arriver jusqu'à ce moment, qui serait donc ce moment d'effondrement, de retournement, de poète retourné par la grâce, dites-vous. Alors, ce qui est aussi une hypothèse, hein, qui est la vôtre, c'est-à-dire vous écrivez « Friedrich Hölderlin n'a jamais déraillé, il est revenu au pays natal et il a découvert que la place était prise par un dieu. » Qu'est-ce qui vous met sur cette piste-là du poète retourné par la grâce?
Retourné par un dieu, et il y a toujours une ambiguïté tenace, c'est-à-dire que Hölderlin est tellement habité par les Grecs qu'il est dangereux de le christianiser à l'excès, mais il est clair qu'il a fait en France, puisque quand on connaît sa correspondance qui est d'une transparence absolue, quand on lit les lettres qu'il écrit après avoir traversé les monts d'Auvergne couverts de neige et arrive à Bordeaux, il baigne dans une lumière, dit-il, qui est une lumière de résurrection. Donc il a fait une expérience d'ordre mystique, c'est clair. Et lorsqu'il revient en Allemagne et qu'il dit à son ami Böllendorf « un dieu m'a retourné » ou « Apollon m'a frappé », il fait là la confession bouleversante et intime d'un retournement très profond qu'il n'a cessé de pressentir. Hölderlin est un sismographe ultra sensible, il est extraordinairement sensible aux influences d'autrui, aux influences des événements qui peuvent lui arriver. Il est poète dans l'âme et de naissance. Lorsqu'il voit le Rhin à 12 ans, c'est un mur bleu qui se lève devant ses yeux émerveillés. Il sent que quelque chose va le saisir et il a peur de partir en France. Il dit à son ami Böllendorf en partant, je risque de perdre la tête, il va falloir que je fasse attention à ne pas perdre la tête en France, à bien maintenir ma tête à tenir, car je vais faire une expérience, il le sent, qui sera bouleversante. Et de fait, il l'a fait. Et tout se passe comme s'il était parti là-bas pour la faire, en quelque sorte. Et ce voyage en France a effectivement parfois les accents d'un chemin de Damas. Hölderlin, comme Hegel, comme Schelling, est un théologien, il ne faut pas l'oublier. Donc il a lu la Bible dans le texte, grec et hébreu. Il est habité par cette tradition religieuse. Et lorsqu'il dit à son retour de France que il faut être fidèle à l'infidélité divine, les dieux par nature se détournent de nous et nous devons nous détourner des dieux à notre tour et retourner vers la terre, Vater Ländische Umkehr, opérer un retournement natal, cela ressemble étrangement à une conversion, effectivement. Ce qui m'autorise, je pense, à la lumière de quelques textes explicitement mystiques, comme Der Einzige, l'unique, dédié au Christ, un texte comme Patmos, qui est dans une lumière apocalyptique très forte, Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch, là où est le péril, croit aussi ce qui sauve. Et puis enfin ce poème que je cite dans les passages que vous avez eu l'amabilité de lire tout à l'heure, En bleu adorable fleurit le toit de métal du clocher, ce poème qui est volé à Hölderlin par l'un de ses visiteurs venu voir le fauve tourner dans sa cage, est un poème explicitement mystique. Donc il est clair, enfin, qui nous rappelle Maître Eckhart, Ruysbroeck, Jacob Böhm, toute la tradition de la mystique rhénane. Donc mon hypothèse...
Mais qui est un poème, par ailleurs, qu'on classe en général dans les poèmes de la période dite de folie.
Oui, parce qu'on ne veut pas voir ce qui se passe effectivement à ce moment-là.
Lorsque dit d'ailleurs, hein, vous citez Benoît Chantre, une lettre de Schelling au printemps 1803 qu'il adresse à Hegel, où il écrit ceci: « Depuis ce fatal voyage en France, Hölderlin a l'esprit tout à fait dérangé, et bien qu'il soit encore capable de quelque travail comme de traduire du grec, il a l'esprit complètement absent, sa vue m'a bouleversé, il se néglige de façon écœurante, bien que ses propos ne soient pas ceux d'un fou, il a adopté les façons d'être extérieures de ceux qui le sont. » Vous n'êtes pas tendre d'ailleurs, ni avec Hegel, ni avec Schelling, Benoît Chantre.
J'ai l'erreur d'être partie prenante.
Vous avez choisi votre camp, clairement. Alors plus césure divine que schizophrénie catatonique, est-ce que vous abondez dans ce sens, John Jackson?
Oui, moi j'ai une vision un peu moins mystique et un peu moins chrétienne de Hölderlin que Benoît Chantre. Ma vision est un peu plus helléno-centrique, si je puis dire. C'est-à-dire, je saisis Hölderlin d'abord davantage dans son rapport à la Grèce. Et si je le fais, c'est d'abord aussi pour des raisons linguistiques, parce que le vers hölderlinien, la phrase poétique hölderlinienne est une phrase qui est étroitement calquée sur la syntaxe et sur la prosodie grecque. Ça, c'est un premier point. Mon second point serait que il a une conception très particulière de l'histoire, en tant que pour lui, l'histoire est l'histoire des fluctuations, la manière dont la divinité est présente sur Terre. C'est-à-dire que pour lui, l'histoire, c'est... il y a des grandes périodes dans l'histoire. Il y a la période de la présence, par exemple, qui coïncide pour lui avec... n'oublions pas, c'est un disciple de Winckelmann aussi, qui coïncide avec l'âge d'or de la Grèce de Périclès, si l'on veut. Bien. Le dernier des dieux grecs, c'est Jésus. Et alors, Hölderlin a une image extraordinaire. Il fait de Jésus, d'Héraclès et de Dionysos les trois feuilles d'un même trèfle. Pourquoi réunit-il ces trois figures? Eh bien, parce qu'ils ont tous les trois la particularité d'avoir un père divin, que ce soit Zeus ou le père biblique, et une mère terrestre. Il meurt. Et à partir de ce moment-là, l'histoire change. Là, on a une véritable césure. Hein. Pourquoi est-ce qu'on a une césure? Parce qu'on passe de l'âge de la présence à l'âge de quoi? Eh bien, à l'âge du signe. Qu'est-ce qui reste? C'est le signe. Le signe, pour Hölderlin, il y a deux types de signes. Il y a le signe textuel, le signe biblique, c'est les évangiles ou la Bible, d'une part, et ce sont les espèces de l'Eucharistie. C'est le pain et le vin, sauf que, on le voit bien dans le poème qui s'appelle Brot und Wein, pain et vin. Le pain et le vin sont compris à la fois comme les espèces de la communion et en même temps comme le don des dieux grecs. Donc cette seconde période de l'histoire qui commence avec la mort du dernier dieu grec, Jésus, Hölderlin croit, on est là, c'est les années de la Révolution française, c'est les années aussi où il lit Rousseau, il a l'espoir, en tout cas pendant un certain nombre d'années, que cette période est en train de s'achever. Pourquoi? Eh bien parce que pointe à l'horizon une troisième période qu'il va appeler Hesperion, l'Hespérie, et qui serait en quelque sorte la réconciliation, la synthèse, si l'on veut, des deux premières. C'est-à-dire l'Hespérie, c'est le temps du retour des dieux, qui ne seront pas les dieux grecs, parce que la divinité, pour Hölderlin, elle change tout le temps de forme. Et donc il a, pendant plusieurs années, cet espoir très fort, et un espoir auquel il participe très personnellement parce qu'il est convaincu que pour que ces nouveaux dieux puissent venir sur Terre, il faut que le poète leur trouve les noms qui conviennent. Nous müssen Worte für Blumen entstehen. Il faut que les mots, les noms fleurissent pour susciter cette nouvelle parousie.
Et c'est ça. Et ce serait la tâche du poète.
Ça c'est la déclin barouf. Ça c'est la tâche du poète. Et c'est ça qui s'effondre avec l'expérience du coup d'Apollon.
Alors, je voudrais revenir sur cette période qu'on a qualifiée donc cliniquement hein, de schizophrénie catatonique, hein, que vous réfutez en levant les yeux au ciel. Et je me demandais comment vous compreniez, Benoît Chantre, vous, durant cette période-là, le fait que Hölderlin ait, alors il a continué à écrire, bien sûr, à distribuer même ses poèmes, à les dater de façon extrêmement fantaisiste, hein, et également à changer de nom.
Tout se passe comme si Hölderlin n'existait plus, d'une certaine manière. Il signe Scardanelli ou Buonarroti, les poèmes qu'il écrit, ceux qui nous restent, car ils ont pour la plupart été détruits. Tout se passe comme si nous étions dans un au-delà de l'œuvre. J'ai parlé d'un Duncan publié en 1808, je crois dernier poème qu'il ait publié de son vivant. Après, il s'en publie, mais sans son aval nécessairement. Il est au-delà de lui-même, en quelque sorte. Donc il est dans ce silence qui va durer étrangement 36 années, soit autant de temps de sa naissance à son internement, où il va écrire constamment des poèmes. La famille de Zimmer les détruira beaucoup au départ de peur que cette frénésie dans laquelle l'écriture poétique le met parfois le rende à nouveau fou, puisque c'est leur angoisse. Donc ils sont détruits par la famille Zimmer elle-même, probablement. Ils ont été volés, c'est le cas de Veiblinger, volant ce poème admirable, en bleuité adorable, fleurit le toit de métal du clocher, pour un roman sur un poète fou, donc inventant en quelque sorte cette légende romantique du poète fou interné, etc. Et peut-être aussi, suggère Philippe Lacoulabarthe, détruit dans l'incendie qui brûla la maison du menuisier à la fin du 19e siècle. Donc il nous reste très très peu de textes que Pierre-Jean Jouve va éditer en 1930 avec Losowski sous le nom Poème de la folie. Et puis on a cessé d'entériner en quelque sorte, d'accepter cette légende. En fait, il est silencieux. Il vit calmement avec les Zimmer. Il est profondément triste parfois, on l'entend pleurer, lire constamment des pages de son roman Hyperion, voir des poèmes qu'il a écrits et qui ne cessent de l'habiter. Mais il se livre à d'étranges pantomimes devant ses visiteurs. Il les met à distance, il les appelle Votre Majesté Royale, Votre Sainteté, preuve de sa démence évidemment. Mais quand vous voyez le premier témoignage qu'on ait de ce type de rituel étrange, c'est Veiblinger qui prépare son roman où il va totalement réinventer un Hölderlin qui, à mon avis, n'est pas le vrai Hölderlin. Veiblinger dit « Il nous attend sur le seuil de sa porte et en français, il nous dit, il me dit, je crois que je vais me faire catholique, votre majesté royale. » Évidemment, on a là une posture, quelque chose d'assez étrange. D'abord, c'est en français, ce qui n'est pas du tout inintéressant. L'étrangeté
fondamentale de la langue poétique. Oui, ça, on entend beaucoup dire, qu'on l'entend parler français.
Oui, il parle français couramment, et donc il est clair que quand il était en France, il n'avait aucun problème à lire ce qui se lisait à Bordeaux au moment de son séjour. Je crois que je vais me faire catholique. Donc, la tentation protestante par excellence, celle d'Angelus Silesius et de bien d'autres, ce rapport complexe entre les deux traditions, réforme et contre-réforme. Votre Majesté Royale. Alors évidemment, certains, comme Zimmer lui-même, ont dit, et c'était sans doute juste, que ça permettait de mettre les autres à distance, car il souffrait profondément de l'influence d'autrui, et il avait une peur panique. Ses lettres à Schiller et à Goethe montrent à quel point, devant des grands hommes, il était totalement anéanti. Donc se protéger de ceux qui lui ont fait tant de mal, d'une certaine manière. Mais il y a aussi quelque chose que nous révèle une traduction récente d'un grand texte de Norbert Elias aux éditions du Seuil, qu'on a intitulé « Les Allemands », ce ridicule de la cour prussienne qui se met en place après le congrès de Vienne, cette espèce d'aristocratie qui s'invente, cette pompe qui invente des mots plus honorables les uns que les autres. Pour moi, c'est évident que c'est ça aussi que mime Hölderlin. Son pays est en train de tourner comme le lait. Il est conscient de la ruine et du danger qui menace plus que jamais. Et donc, il met aussi en scène ce ridicule de la cour prussienne.
Alors, c'est peut-être sur la promesse d'une lecture ou d'un bout de lecture de Anne Duncan, mais vous faites bien comme vous voulez, que je vous abandonne, Benoît Chantre et John Jackson. Merci à tous les deux. C'est la fin de cette émission que je vous laisse donc conclure entre vous et sans moi. Alors, bon après-midi à vous, à toutes et à tous.
Merci beaucoup.
Bah, je lis.
Ah oui, allez-y, allez-y.
Anne Duncan. Der Nordost wehet, der Liebste unter den Winden mir, weil er feurigen Geist und gute Fahrt verheißet den Schiffern. Geh aber nun und grüße die schöne Garonne und die Gärten von Bordeaux dort, wo am scharfen Ufer hingehet der Steg und in dem Strom tief fällt der Bach. Darüber aber hinschauet ein Edelpaar von Eichen und Silberpappeln.
Nous avons évoqué ce poème, l'un des derniers sans doute qu'il ait publié délibérément en 1808 ou qu'il ait de son vivant accepté de voir publié, qui est un adieu à la France, un adieu à une certaine forme de poésie. Et de manière bouleversante aussi, un adieu à Suzette Gontard, qui est au cœur de ce poème et qui fait de ce poème un peu un tombeau.
Hölderlin, à ce moment-là, connaît bien la tentation d'être zélos. Il est habité. Il sait ce que, par expérience intérieure, ce que veut dire être privé d'âme, en quelque sorte, et d'être voué à une finitude sans espoir. Il sait aussi qu'il faut lutter contre cette tentation. Et sa poésie naît très clairement, alors, de cette lutte qui consiste à la fois avouer le danger et à tenter d'y remédier.
Toujours l'affrontement de la contradiction qui est
absolument
tellement fondamental pour lui. Et puis, il y a ces femmes brunes qui foulent un sol soyeux.
Et ça, là, c'est le souvenir de Bordeaux, sans doute.
Sûr.
Bordeaux étant, en même temps, ici, je dirais, une métaphore pour la Grèce. C'est-à-dire pour l'univers de la Méditerranée, pour l'univers de du soleil, du jour, par opposition à la nuit, qui serait davantage, on le voit bien au début de Brotunfein, qui serait l'espace germanique.
C'est donc Bordeaux la Provence pour un Allemand de l'époque, c'est ouais. Assez drôle de le rappeler, mais ça n'est plus la Méditerranée, c'est la côte atlantique.
C'est
et
vrai.
Donc c'est une tentation américaine aussi,
oui,
puisque les bateaux repartent à ce moment-là, c'est le temps de la paix de Lunéville et de la paix d'Amiens, les bateaux repartent magnifiques vers les Caraïbes, et ces femmes brunes qui foulent un sol soyeux, ce ne sont pas les femmes allemandes qui se lèvent à la rencontre des dieux dont nous parle Heidegger pour célébrer en 1943 le centenaire de la mort de Hölderlin. Ce ne sont pas les femmes allemandes se levant à la rencontre des dieux, ce sont des Antillaises qui dansent une nuit de printemps.
La compagnie des poètes, c'est vendredi prochain, même heure, même endroit. Aujourd'hui, à la technique Delphine Baudet, à la préparation Thierry Beauchamp et à la réalisation François Connac. Le détail des actualités des invités du jour, c'est sur le site de l'émission, à réécouter, podcaster ou partager sur franceculture.fr. Mais sans plus tarder, c'est l'heure de la méthode scientifique par Nicolas Martin.